le magazine des Nations Unies.
Le développement dans l'approche d'intégration régionale, c'est la solution aux causes profondes des crises et des tensions dans la sous-région des Grands Lacs. Déclaration de l'envoyé spécial du secrétaire général pour cette région, Wang Xia, était cette semaine en visite de travail en RDC, la première depuis sa nomination. Il a promis le soutien des Nations Unies pour la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. Environ 19 500 000 enfants de 0 à 59 mois ciblés pour la campagne de vaccination contre la polio et plus de 2 millions âgés de 6 à 59 mois pour la vaccination contre la rougeole. Ces campagnes se sont déroulées sur l'ensemble du territoire national du 18 au 20 avril 2019 avec l'implication de plusieurs partenaires du gouvernement dont l'OMS et l'UNICEF. Avant leur lancement officiel, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé en RDC, le docteur Deo Chimirimana, a indiqué que le monde était un tournant décisif de l'éradication de la polio. Sur la route de Bikoro à Bokonda, c'est le titre d'un documentaire photographique d'un artiste photographe français qui montre l'autre face de la RDC, celle des Congolaises et des Congolais vivant dans la forêt. Patrick Bullock a fait don de ses clichés à la MONUSCO, un geste que Léla Zerougui, la chef de la mission, a salué à sa juste valeur. Dans cette édition, vous suivrez les impressions de la représentante spéciale ainsi que l'entretien que l'artiste photographe a accordé au magazine des Nations Unies comme invité.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue au magazine des Nations Unies. L'envoyé spécial pour les Grands Lacs, Wang Xia, a effectué cette semaine une visite de travail en RDC, la première depuis sa nomination à ce poste où il a remplacé Saïd Djinit. Lundi 15 avril dernier, le diplomate onusien avait entamé une série de rencontres avec certains officiels congolais. Pour Wang Xia, la paix et la sécurité dans les Grands Lacs passent par le développement dans l'approche d'intégration régionale. Les propos de l'envoyé spécial recueillis ici par Honoré Missinga.
Je viens dans ce pays pour entamer une tournée de visite courtoisie auprès des hautes autorités de ce pays dans le cadre du mandat donné par le Conseil de sécurité au bureau du secrétaire général pour la région des Grands Lacs. Je suis venu pour voir, écouter, connaître, mieux comprendre dans l'objectif de voir comment travailler d'une manière plus ambitieuse avec des objectifs plus clair et plus précis avec les autorités congolaises pour voir comment mieux traduire en action concrète l'accord cadre sur la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région des Grands Lacs. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un élan très favorable dans ce pays. Il est de notre devoir de vous accompagner, de vous aider, de vous encourager. Moi, je pense que ce soit pour la RDC ou les autres pays clés de la sous-région, les enjeux les plus importants, c'est la paix, c'est la sécurité. Comment pérenniser la paix et la sécurité? Ce sont les conditions sine qua non pour que les pays de la sous-région puissent s'engager dans un processus de développement socio-économique avec un plan plus ambitieux. Je pense que si on veut s'attaquer aux racines profondes des crises, des tensions, c'est le développement dans une approche d'intégration régionale. Les pays de la sous-région sont interdépendants et donc il faut renforcer la confiance politique entre tous les pays pour aplanir les différends, les divergences, pour mettre fin à toutes ces tensions. Et c'est sur une base de paix et de sécurité pérennisée que nous pourrions espérer un avenir de prospérité plus ambitieuse.
Santé, c'est à Kinshasa, à la place Sainte-Thérèse, que les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite ont été officiellement lancées le jeudi 18 avril 2019. La campagne, qui s'est déroulée sur l'ensemble du territoire national jusqu'au samedi 20 avril, a été couplée à la riposte contre la rougeole dans 63 zones de santé, avec l'appui, entre autres, de l'OMS et de l'UNICEF. Le mag UN revient sur le point des journées avec Blaise Makassi.
Au cours de son allocution, le représentant de l'OMS en RDC a affirmé que l'humanité est à un tournant décisif de l'éradication de la poliomyélite dont l'échéance est désormais fixée en 2023. À ce titre, le plan stratégique de l'éradication de la poliomyélite et la phase finale met l'accent sur le renforcement du système de vaccination des routines ainsi que les confinements du poliovirus dans les laboratoires. Il note qu'en RDC, la situation de la rougeole est très préoccupante. À la 14e semaine de l'année 2019, le pays a atteint 73% des cas notifiés au cours de la même période en 2018, avec 13 fois plus de décès. Ces campagnes mobilisant plus de 230 000 acteurs du ministère de la Santé publique et partenaires ciblent plus de 19 millions d'enfants âgés de 0 à 59 mois pour la vaccination contre la poliomyélite dans 502 zones de santé et plus de 2 200 000 enfants âgés de 6 à 59 mois pour la vaccination contre la rougeole dans 63 zones de santé. Les coûts opérationnels de ces campagnes sont estimés à plus de 9 200 000 dollars américains.
Autre chose, 18 tableaux de photographie ornent depuis mercredi 17 avril dernier les murs intérieurs de l'immeuble qui abrite le bureau de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Leila Zerougui, au quartier général de la MONUSCO à Kinshasa. Un don de l'artiste photographe français Patrick Willock, que la chef de la mission a réceptionné avec joie. Les impressions de Leila Zerougui, recueillies par Honoré Missenga Kalala.
D'abord, j'ai retenu que l'artiste a eu la gentillesse, la générosité de nous offrir des photos magnifiques qui tracent l'histoire, la vie, le quotidien des Congolais qu'on ne voit pas au quotidien. Des Congolais qui sont loin, qui sont dans la forêt, qui sont loin des grandes villes, qui sont dans les villages. Et toujours cette image magnifique d'un peuple fier, d'un peuple qui fait son travail et d'un peuple qui est en harmonie avec la nature. Je suis vraiment très honorée, je lui ai dit que je ne le remercierai jamais assez. Il m'a offert 18 photos pour la MONUSCO et un livre qui retrace encore une autre tradition magnifique dans cette région éloignée de l'Équateur, l'ancienne province, l'Équateur, de la RDC. Je le remercie mille fois parce que c'est une chance d'avoir des gens comme ça, la générosité de cœur, le savoir-faire, et la façon extraordinaire, à travers un art, de traduire ce que les milliers de mots ne peuvent pas traduire.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Dans cette rubrique, nous revenons sur la lutte anti-mine avec Congo Organisation pour le Développement, l'Éducation et la Protection de l'Environnement, CODEP, une ASBL œuvrant pour le moment dans les contrées de l'ancienne province de l'Équateur. Dans le cadre de cette lutte, le secrétaire général de CODEP, Blaise Congolo, salue l'engagement et l'action de la MONUSCO et de UNMAS. Il plaide pour que son organisation, comme bien d'autres qui œuvrent dans ce secteur, puisse bénéficier de l'apport de tous ses partenaires. Blaise Congolo répond aux questions d'Honoré Missenga Kalala.
Blaise Congolo, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes et bonjour aux auditeurs de la radio Capier.
Votre organisation est aussi dans la lutte anti-mine. Quel genre d'activité vous faites à cet effet?
Merci pour la question. Nous faisons l'éducation au risque de mine. Ça veut dire sensibilisation auprès de la population par rapport à la lutte anti-mine. Et puis nous faisons une enquête technique. Ça veut dire que nous passons au niveau de zones dangereuses, essayer de faire les marquages et puis faire les rapports à l'autorité nationale, c'est le centre congolais pour la lutte anti-mine. Il y a plusieurs stratégies que nous utilisons pour faire passer notre message auprès de la population. Entre autres, les médias, tels que nous sommes avec la radio Capi. Nous pouvons aussi envoyer nos sensibilisateurs auprès de la population, ça veut dire une sensibilisation interface. Ça intéresse beaucoup la population par rapport à ce que nous faisons comme stratégie de sensibilisation.
Donc vous n'avez pas pensé à d'autres stratégies comme le théâtre par exemple?
Évidemment, c'est dans notre projet aussi, mais il se fait que c'est un peu coûté. On se bat, jusqu'à présent nous n'avons pas encore eu le financement, mais c'est dans nos objectifs aussi. Nous devons passer le message, même les sourds qui ne nous écoutent pas. Nous sommes en train de mettre en place une école pour que les sourds puissent aussi capter le message que nous transmettons en rapport avec la lutte anti-mine. Quand on a la volonté, on peut aller loin. Nous n'avons pas assez de moyens. Nous fonctionnons avec les cotisations des membres. S'il y a par exemple des dons, des legs. Donc pour le moment, nous fonctionnons avec le peu. En termes de cotisation des membres, il y a des fois ils ont des difficultés pour donner. Mais comme on a la volonté, on fait toujours un effort d'arriver auprès des populations et puis passer le message.
Donc dans la lutte anti-mine, on peut vous considérer comme étant des acteurs de terrain?
Tout à fait, tout à fait.
Et vous opérez dans quelle province, dans quelle région, dans quelle zone?
CODEP, comme organisation pour le développement, éducation et protection de l'environnement, nous avons une autorisation nationale. Ça veut dire que nous travaillons sur toute l'étendue du territoire national. Mais à l'instant, nous sommes un peu focalisé dans deux provinces. La province du Nord Ubangi, plus précisément à Badolite, là où nous sommes installés. Et puis nous sommes aussi dans la province de l'Équateur, plus précisément à Mbandaka. C'est là où nous vivons pour le moment.
Vous pensez que dans ces régions que vous venez de citer, il y a un risque des mines?
La région de l'Équateur, c'est une ancienne région qui a connu beaucoup de difficultés en termes de guerre, de groupes armés qui sont passés là-bas. Et que à chaque année, on a toujours remarqué la présence d'un engin explosif. Et que la population est vraiment exposée. Et comme chaque année on trouve des règles, restes explosifs de guerre, on s'est dit non, il y a un problème sérieux. Parce que l'objectif 2021 est qu'en République démocratique du Congo, qu'on ne puisse plus parler d'une mine dans ces pays-ci. Et si aujourd'hui nous prenons cette hypothèse et que sur le terrain nous trouvons qu'il y a toujours des mines, c'est qu'il y a un problème. Et que la population doit, d'une manière permanente, être sensibilisée et être prévenue par rapport à ces dangers-là. Nous nions que Kota Kole a été un centre militaire pour le commando et que, sur place à Kota Kole, il y avait un hôpital là-bas, en allant vers Satema pour ceux qui ont été déjà à Kota Kole. La route-là est pratiquement impraticable. Et puis, au centre de Kota Kole, il y a toujours une présence de règles. Alors, la population n'est pas vraiment informée par rapport à ça, alors il faudrait être toujours avec elle pour que au fin fond de Kota Kole, vers Satema, en allant vers notre frontière avec la République centrafricaine, qu'on puisse sensibiliser cet axe-là. Parce que il y avait des véhicules qui allaient là-bas, des gens qui allaient là-bas, des paysans qui fréquentaient cet axe-là. Il y a même un petit marché là-bas. Alors, si aujourd'hui, avec par exemple le sujet de l'année, nous avons dit la lutte anti-mine, déminée, c'est un pilier majeur pour le développement communautaire de la RDC. Si aujourd'hui cet axe-là de Kota Kole en allant vers Satema n'est pas sensibilisé, n'est pas déminé, ou on n'a pas encore fait quelque chose de mieux, mais en termes de développement là-bas, ça va poser un problème. Parce qu'il y a un marché là-bas qui ravitaille la population de Kota Kole. Alors, on se bat par rapport à ça pour que, arrivé en 2021, qu'on ne trouve rien sur le territoire congolais.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez attendre, par exemple, de la MONUSCO, alors de l'UNMAS qui est dans la lutte anti-mine?
Merci, monsieur le journaliste. La MONUSCO, c'est une grande organisation qui est en train d'œuvrer en République démocratique du Congo et que la population ressent à chaque moment le travail qu'effectue la MONUSCO. De même aussi, ça fait longtemps que l'UNMAS est en train d'encadrer les ONG luttant dans le secteur de lutte anti-mine, les ONG travaillant dans ces secteurs-là. L'UNMAS est le partenaire majeur, géant même, qui les accompagne pour que, en République démocratique du Congo, qu'il n'ait rien en termes de ZXO, REC ou mine antipersonnelle.
Alors, qu'est-ce que vous attendez d'un partenaire comme celui-là, UNMAS par exemple?
UNMAS, comme d'habitude, il a toujours aidé les ONG qui travaillent dans le secteur-là. Coder ne peut pas être soustrait ou bien être à côté. Donc nous faisons ce plaidoyer auprès de l'UNMAS de venir en aide à Coder, pas seulement Coder, il y a d'autres organisations qui travaillent dans le secteur. Par exemple, vous voyez ADEPSI dans le Sud Ubangi, il y a d'autres organisations, ADES et autres. Donc nous sommes nombreux dans ce secteur-là, mais nous demandons à l'UNMAS, il y a beaucoup ce que nous appelons le critère d'éligibilité. Des fois ça nous fragilise un peu, nous les ONG nationales, ça nous fragilise un peu, mais nous savons que nous avons la volonté de travailler. Nous ne sommes pas là pour l'argent, mais nous sommes là pour le bien-être de la population. Parce qu'aujourd'hui, vous jetez le coude à droite, vous voyez un ami, les bras amputés. Ça fait mal, vous voyez, ça fait mal. Vous jetez le coude à gauche, vous trouvez une dame, le pied parti, avec l'enfant au dos. Et elle souffre dans ce sens-là, ça nous fait mal. Alors, nous ne sommes pas là pour l'argent, mais beaucoup plus pour le bien-être de la population. Ce que nous demandons à l'UNMAS, c'est de nous aider en nous appuyant dans ce secteur-là pour que le travail soit bien fait.
Il n'y a pas que l'UNMAS, il y a également sur le plan national, le gouvernement, à travers sa structure, c'est CECELAM.
Tout à fait. CECELAM contribue beaucoup dans ce que nous faisons. Parce que, étant une structure de l'État congolais, avoir les documents, c'est CECELAM qui octroie. Ça veut dire, l'État congolais qui est là doit vous autoriser à travailler dans les secteurs-là. Le fait que CECELAM nous accorde l'accréditation provisoire ou définitive, selon les cas, ça nous aide déjà. Donc, l'État congolais a en fait de nous accompagner aussi dans ces secteurs-là. Donc, CECELAM, à travers sa coordination nationale, je vois M. Soudi Alimansi, qui fait un bon travail avec son équipe, ça nous aide vraiment. Nous devons continuer et puis donner un bon travail à notre population.
Blaise Congo, merci beaucoup.
C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste.
Deux maternités réhabilitées, 27 tonnes d'équipements médicaux, c'est un don du Fonds des Nations Unies pour la population Chmua, pour le gouvernement de la RDC, pour la ville de Beni, au Nord Kivu. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui était en tournée dans cette province, a réceptionné personnellement cette donation le mardi 16 avril. Une donation à classer dans le cadre de la réponse à l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Les deux maternités réhabilitées sont celles de l'hôpital général de référence de Beni et du centre de santé de référence de Mangina, épicentre de l'épidémie. Concernant les équipements médicaux, dont le coût est estimé à 400 000 dollars américains, ils sont destinés à 25 formations sanitaires des zones de santé affectées par la même épidémie, au Nord Kivu et en Ituri. Autre nouvelle, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a écrit au président congolais Félix Antoine Tshisekedi pour exprimer sa solidarité avec la RDC après le naufrage d'une embarcation sur le lac Kivu qui a fait de nombreuses victimes. Les Nations Unies sont prêtes à apporter un appui aux autorités de la République démocratique du Congo à la suite de ce drame, a indiqué pour sa part le porte-parole d'Antonio Guterres. Enfin, 225 000 euros, c'est le montant d'une aide humanitaire de l'Union européenne à la RDC à la suite de l'épidémie de rougeole dans la province du Kasaï. Cette assistance bénéficiera directement à plus de 45 000 enfants de moins de 5 ans exposés au risque élevé de contamination de la rougeole. À travers son partenaire Alima, l'Union européenne aidera les enfants concernés à bénéficier d'un traitement et d'un accès aux médicaments et aux soins de santé.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Comme dit plus haut, l'artiste photographe Patrick Willock a fait un don à la MONUSCO de 18 tableaux d'une série de photographies intitulée « Sur la route de Bikoro à Bokunda ». La représentante spéciale du secrétaire général, Léla Zerougui, a réceptionné elle-même ses œuvres. C'est à ce titre que le magazine des Nations Unies a reçu le donateur qui est donc notre invité de ce dimanche. Patrick Willock a répondu aux questions d'Honoré Missinga Kalala. Suivez leur entretien.
Monsieur Patrick Willock, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes au quartier général de la MONUSCO où nous venons de faire le tour d'une série de photos. Ce sont vos photos.
Oui, c'est ça. C'est une série qui s'intitule « Sur la route de Bikoro à Bokunda », qui est un travail, un documentaire artistique photographié dans la province de l'Équateur, particulièrement entre la route de Bikoro à Bokunda, où à travers des petits théâtres de brousse, des petites scénettes, je dépicte le quotidien des Congolais à travers ces photos-là, où j'aborde des thématiques telles que la religion, l'harmonie avec la nature, la globalisation, l'éducation, le manque d'emploi, etc., etc.
Alors c'est dans quelles circonstances vous avez fait ces images, ces photos ?
C'est une série que j'ai fait entre 2012 et 2013. Pour la petite histoire, j'ai grandi au Zaïre à l'époque et je suis revenu pour la première fois en 2009 au Congo donc. Et puis j'ai voyagé dans la province de l'Équateur et j'étais fasciné par cette province, par cette nature, par l'harmonie entre le peuple et la nature. Et j'ai fait plusieurs voyages et petit à petit ce projet est né de ces différents voyages.
Donc toutes ces photos c'est entre 2012 et 2013 vous avez dit?
Oui, c'est ça, oui, entre 2012 et 2013.
18 photos, donc 18 messages.
Donc chaque image est construite, donc encore une fois, ce sont des petits théâtres de brousse où je fais des mises en scène avec la participation de la population devant des cases. Toutes les cases sont différentes et devant une nature, bien sûr, qui est à chaque fois différente. Et à travers ça, je montre la beauté de la nature, la précarité de la vie ou non en fonction de la case qui est photographiée, mais aussi la beauté. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer une autre image du Congo. En tant que photographe, je dis souvent que je suis un photographe de la paix, je ne suis pas un photographe de la guerre. Il y a beaucoup d'images à l'étranger sur le Congo qui sont toujours les mêmes images, les stéréotypes que l'on retrouve dans les médias, qui sont cette violence, cette guerre, toutes ces choses-là, qui existent malheureusement aussi au Congo, mais il y a un autre Congo, et ça c'est le Congo que j'aime. Et c'est ça que j'ai voulu montrer à travers mes photos, c'est l'autre Congo dont on ne parle pas. C'est montrer ce Congo-là qui est en paix, où le peuple est digne, où le peuple est humain, où le peuple est en relation avec sa nature, où les valeurs sociales sont bien ancrées, où je pense que d'ailleurs les Occidentaux ont encore beaucoup à apprendre de ces valeurs-là dans les villages qui ont disparu dans les sociétés urbaines européennes.
Donc le Congo rural.
Tout à fait. En plein Congo rural, l'autre Congo, le Congo qu'on ne connaît pas et qu'on ne voit pas dans les médias à l'étranger.
Quel est l'intérêt de votre démarche? Pourquoi vous remettez ces tableaux à la MONUSCO?
Alors c'est une série que j'ai produite donc entre 2012 et 2013, qui a été primée de nombreuses fois en Europe, qui a été montrée dans différents festivals photographiques, en galeries, et j'avais eu une exposition à l'Institut français, ici, à la Gombe, en 2014 il me semble. Et donc cela fait maintenant 4 à 5 ans que ces photos-là sont dans une caisse à Kinshasa chez un ami et il fallait que je prenne une décision parce que la laisser encore dans cette caisse pendant longtemps, les photos allaient finir par s'abîmer. Alors soit j'allais en faire un don à quelqu'un, soit j'allais les rapatrier, soit j'allais les détruire parce que ce sont des photos qui ont une valeur et on ne peut pas les laisser traîner de cette façon-là. Et finalement, j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler avec la MONUSCO et donc je suis très fier aujourd'hui de faire ce don ici et que ces photos-là restent au Congo. Parce que c'est ici qu'il faut que ces photos-là soient vues aussi.
Alors, est-ce que vous avez un autre projet du genre? Vous avez fait l'Équateur, est-ce que vous pensez à d'autres provinces de la RDC?
Alors, j'aime tellement l'Équateur que je m'obstine à continuer à aller là-bas et j'ai produit d'autres sujets autour d'un rituel de la maternité chez les Walé, par exemple. D'ailleurs, je sors d'un voyage de 2 mois, là où je rentre de l'Équateur, où j'ai encore travaillé auprès des communautés pygmées sur ce sujet de la maternité. Le Congo est immense, je pense qu'il faut plus d'une vie pour pouvoir tous les découvrir. Mais oui, j'adore ce pays et j'espère avoir l'opportunité de travailler autre part dans d'autres provinces. Oui.
Apparemment, vous avez la passion pour le monde rural, donc vous êtes un environnementaliste.
Je ne sais pas si on peut me définir en tant qu'environnementaliste. Par contre, je sais que j'ai toujours eu besoin dans ma vie de passer du temps avec les communautés rurales, avec des peuples autochtones, parce que c'est là, je pense, toute l'essence de la nature humaine. Et je trouve que dans nos sociétés occidentales, urbaines, modernes, comme on dit, on a perdu beaucoup de choses. Et on se croit moderne, mais on est complètement déconnecté avec la réalité, avec la nature. Et ça fait du bien de se ressourcer, de repartir aux sources.
Alors, en tant qu'artiste, vous avez un message par rapport à toutes ces réalités, à ce que vous avez vu, à ce que vous avez perçu, vous avez entendu?
Moi, j'ai beaucoup travaillé au Congo. J'ai aussi pas mal travaillé autour de sujets de la migration. Ces derniers temps, surtout ces deux à trois dernières années. Je pense que la particularité de mon regard fait que je continue à voir de la beauté et de la dignité chez les gens, là où beaucoup de personnes arrêtent d'en voir. Et je pense que je suis fondamentalement un optimiste de la vie et je crois au bon. Je crois qu'il y a quelque chose parmi nous tous de fondamentalement bon. Mais je pense que dans les sociétés modernes, où je pense que l'après-colonisation a fait qu'on a perdu énormément de nos repères. Et aujourd'hui, on est un peu... on est un monde qui court à 100 à l'heure, mais on ne sait pas trop où on va, et on va droit dans un mur. Et certains de mes projets futurs vont d'ailleurs être axés là-dessus pour essayer de sensibiliser sur ce message-là, sur le besoin de repartir sur des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus ancrées avec la nature. Car on dépend d'elle. La nature, c'est la vie, et l'homme a plutôt eu tendance à penser ces derniers temps que l'homme est supérieur à la nature, mais ça va vite le rattraper.
Alors peut-être une demande particulière à la MONUSCO?
Que ces photos-là soient vues par le plus grand nombre, et qu'ils en prennent bien soin, et ça, je n'ai aucun doute.
Patrick Huloc, merci.
Merci à vous.
Le Bureau des Affaires Civiles de la MONUSCO à Kindu, dans la province du Maniema, a mis en place un comité local de protection à Punia, avec pour objectif principal d'identifier les cas de menaces de protection sur l'ensemble des territoires et d'alerter au besoin les autorités en vue des actions appropriées. C'est en tout cas ce qui ressort de la mission conjointe MONUSCO-gouvernement provincial effectuée cette semaine à Punia. Christian Mapendano pour les détails.
L'équipe de la MONUSCO Kindu a écouté les déplacés venus de Loa dans la province de la Tchopo et les différentes victimes de violations des droits de l'homme liées aux affrontements ayant conduit à leur déplacement vers le territoire de Punia. À la fin de cette mission, le Bureau des Affaires Civiles de la MONUSCO Kindu a procédé à l'identification, à la constitution et au renforcement des capacités des membres du Comité local de protection de Punia. Ce comité constitué de 14 membres issus des 3 secteurs du territoire et de la commune rurale de Punia est chargé d'identifier et d'analyser les menaces de protection dans la communauté. C'est notamment les conflits fonciers, coutumiers, des groupes armés et les aspects humanitaires. Les missions de ce comité de protection incluent également la promotion de la communication avec les acteurs étatiques et leurs partenaires pour identifier les capacités et moyens locaux afin de répondre aux éventuels incidents de protection. À travers le mécanisme d'alerte précoce, ce comité aidera désormais les autorités à prévenir et apporter une réponse rapide en cas d'incident sur l'ensemble du territoire de Punia. De retour de Punia, Christian Mapendano, Radio Kapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Suivez. suivez cette question posée à Wang Xia, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs, lors de son séjour la semaine dernière en RDC.
Monsieur le représentant, vous venez de rencontrer le nouveau coordonnateur du mécanisme national de suivi. Dans quel état d'esprit les discussions se sont déroulées?
Le mécanisme national de suivi est une structure très importante dans la mise en application de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région du Grand Lac. J'ai eu avec le coordonnateur un entretien très riche, très intéressant, très constructif. Nous avons parlé des échéances à préparer et je pense que d'ici avant la fin de l'année, nous aurons des résultats très concrets dans la pérennisation de la paix et de la sécurité dans ce pays et aussi dans la sous-région. Et je lui ai assuré de notre soutien, de notre accompagnement. Nous allons travailler la main dans la main.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Bonjour, je suis Belinda Bosuma, mariée, mère d'un petit garçon pour le moment, qui s'appelle Shemaya Kabea. Je suis journaliste de formation de l'Institut facultaire des sciences de la formation et de la communication, IFASIC, option journalisme politique extérieure. Je suis à la MONUSCO depuis, je dirais, 2005 pour les stages et 2006 lors des élections. J'ai signé finalement un contrat en 2009 avec la Fondation Hirondelle à l'époque et puis 2011 avec la MONUSCO jusqu'aujourd'hui. Et au sein de la MONUSCO, je suis donc journaliste à Radio Capi. Si je peux résumer ma journée de travail, je dirais que ça dépend des shifts que j'ai fait, c'est-à-dire il y a la matinale qui commence de 4h jusqu'à 9h et puis la journée, nous avons les journaux de midi et de 15h. Sans compter les bulletins d'information, donc entre 8h et 15h. Et puis, il y a aussi le shift du soir qui commence à 14h jusqu'à 20h. Bon, en général, en arrivant, que ce soit le matin ou l'après-midi, on assiste d'abord à la conférence de rédaction. C'est là où on prépare les éléments à diffuser dans les journaux en propos des sujets de reportage avec des angles bien précis. Et puis les reporters vont sur terrain, ils ramènent les éléments. En tant que présentatrice, nous recevons ces lancements après avoir élaboré un conducteur en conférence de rédaction, bien sûr. Et puis, je retravaille les textes à ma manière, c'est-à-dire selon mon style, voilà, pour rendre cela fluide pour nos auditeurs aussi. Voilà un peu comment je peux décrire ma journée de travail. Concernant mon parcours professionnel, je dirais que avant la MONUSCO, je n'ai fait qu'un stage à la chaîne de télévision Tropicana Télévision à l'époque, qui est devenue Numérica, avec le chef Kibambi Chintoa. Donc avant la MONUSCO, je n'ai été que là. Je peux dire que tout mon parcours professionnel, c'est ici, à la MONUSCO. Alors, comment gérer mon temps libre? Mon temps libre, j'aime bien le passer avec mon fils. Et je vous assure que c'est différent, hein, quand j'étais célibataire et sans enfant. Maintenant, en tout cas, je préfère passer mon temps libre avec mon fils, soit à l'église ou à la maison. Il n'a que 3 ans, à peu près, mais il raconte ce qu'il a vu ou ce qu'il a vécu à l'école des dimanches, en ses propres termes. Parfois même, on se dispute la télécommande à la maison. Lui, il veut regarder ses dessins animés et moi, mes programmes tels que les informations, les séries télévisées. Voilà un peu comment je passe mon temps libre. Mes préférences, j'aime bien la musique gospel. Je suis aussi nostalgique, hein, les anciens succès, de temps en temps, j'y recours. Bon, côté nourriture, j'aime beaucoup le pondu et l'imbondo. Avec du poisson frais et le lituma. C'est vraiment mon plat préféré. Voilà. Et puis, mes projets d'avenir, Bon, je ne vais pas entrer en détail, mais j'aimerais former ma propre entreprise. Voilà un peu après la MONUSCO, ce que je voudrais bien faire. Au revoir.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Pour votre agenda, notez que le 22 avril, c'est la journée mondiale de la Terre. Le 23, c'est la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Et enfin, le 25 avril, c'est la journée mondiale du paludisme. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de votre magazine des Nations Unies qui vous a été présenté par Tina Salama. Mise en onde, Mimi Kindou, Honoré Missing Salala, était au reportage, réalisation et a coordonné ce magazine qui est supervisé par Martin Sebouchangwe. On se dit à bientôt sur Radio Capi. Ciao.